Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgaard pour vous présenter une nouvelle édition d'Escale, consacrée à la journée de sensibilisation à l'albinisme avec le témoignage de Salif Guetta. Au micro de nos confrères de Mikado FM, Karim Djinko et Moussa Diara, ce grand artiste malien de renommée mondiale est atteint d'albinisme et est fortement engagé dans la lutte à l'encontre des traitements souvent inhumains contre les personnes albinos. On l'écoute.
Pour moi, c'est un combat et puis un devoir, le devoir de faire ce combat. Parce que je suis moi-même albinos et je sais que la vie des albinos n'est pas facile. Donc, servir la cause des albinos, pour moi, c'est un devoir de lutter pour la bonne cause, pour cette bonne cause.
Pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce que c'est de vivre dans la peau d'un albinos, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'au quotidien, ça constitue comme défi ?
D'abord, quand moi je grandissais, quand j'ai grandi avec l'albinisme, quand vous trouvez devant vous 10 jeunes, 10 garçons, les 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils commencent à cracher d'abord quand ils voient un albinos, à cracher. Parce que s'ils ne crachent pas, pour eux, ils vont avoir un albinos. Donc, dès que tu apparais quand tu es jeune dans ce milieu, toi, tu es albinos, ils commencent à cracher. Et vous croyez que c'est facile à vivre avec ça ? Même ça seulement. Deuxièmement, tu es très différent. Tu ne peux pas passer inaperçu. Partout où tu passes, tu es remarqué. Et comme ces gens ne savent pas qu'être albinos, c'est un manque de mélanine, ils n'ont pas d'explication scientifique, tout de suite les interprétations sont négatives. Tu es mauvais, tu es invivable, il ne faut pas t'approcher et tu es inassociable. Tout de suite. Troisièmement, les féticheurs, les marabouts, qui gèrent la vie de tous les Maliens, de presque de tous les Africains, généralement les 60% des Africains, et pendant les élections, ou bien pendant d'autres choses, ils demandent le sang des albinos. Ils demandent le sang des albinos, ou bien les membres des albinos. Donc, c'est une chasse aux albinos quand ces moments arrivent. Même à l'état actuel des choses, on est à un an des élections maliennes, il y a eu déjà deux sacrifices humains perpétrés sur les albinos. Il y a un à Kita, il y a un à Sanangrouba. Mais on ne connaît jamais qui a fait, parce qu'on ne pourra jamais connaître qui a fait. Donc, il faut dire que ces enfants-là, ils naissent pas d'une façon différente que les autres.
Est-ce qu'au fil du temps, le regard qu'on porte sur les albinos a changé ? Est-ce que vous percevez ce changement depuis qu'on fait la sensibilisation ?
Sincèrement, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Il y a eu des positions dissuasives de la part des organisations pour supporter les albinos, supporter les albinos dans le monde. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le Mali, il y a partout. Donc, ce monde qui se mobilise pour la cause des albinos a amené un peu une situation dissuasive. Les gens commencent à avoir peur, mais ça n'a pas arrêté. Il y a eu aussi cette journée votée par les Nations Unies, le 13 juin, qui est dans le monde un grand pas en avant. On a lutté pour ça, pour que ça soit reconnu par les Nations Unies. Et vraiment, on a eu quelques causes et ça commence vraiment à porter ses fruits.
Salif, le combat que vous menez pour sensibiliser la population à travers votre fondation Salif Keita, est-ce que vous avez eu de l'aide ?
J'ai eu de l'aide de d'autres personnes, mais ça vient toujours d'une façon très privée. Je sais qu'ils ont voté ici un bureau au Sénat qui s'occupe de toutes les fondations maliennes. Mais en ce qui concerne les albinos, je n'ai pas eu d'aide positive qui peut quand même être remarquable. Pas encore.
Mais est-ce que vous avez eu des résultats ?
On a eu des résultats. On a eu vraiment des résultats. Parce qu'avant, les albinos avaient peur de se rassembler. Pour deux choses. Quand un albinos voit un autre albinos, bon, il connaît comment il souffre. Donc, l'autre aussi sait, mais ils ont peur de se rassembler. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils sont 4 ou 5, ça va être un endroit où les gens viendront piocher les albinos pour les sacrifier. Donc, ils avaient peur de se rassembler. Mais maintenant, il y a tellement d'associations faites par les albinos eux-mêmes. Donc, ils ont compris qu'il faut qu'ils luttent ensemble pour prouver qu'ils souffrent d'albinisme.
Qu'est-ce que vous faites concrètement comme sensibilisation, comme activité au sein de votre...
Nous, les secours immédiats sont... D'abord, le problème des albinos, ça commence par la santé. Parce que ils sont atteints à 16 ans ou bien à 15 ans de cancer de peau. Donc nous, nous leur procurons des crèmes de solaire, généralement. Mais aussi, on les envoie souvent en Côte d'Ivoire pour les cancers qu'ils ont. Parce que malheureusement, ils viennent avec des états très avancés. Ils viennent quand il n'y a plus de solution. Mais toutes les personnes qu'on a envoyées en Côte d'Ivoire, après quand ils sont revenus, ils sont décédés. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, avant qu'elles viennent, elles commencent à traiter d'une façon traditionnelle. Au lieu de venir voir les docteurs, mais quand la plaie a avancé, qu'il n'y a plus de solution, ils viennent. Donc, ça trouve qu'il est trop tard. Mais on les envoie en Côte d'Ivoire, on en envoie en Côte d'Ivoire, on les traite ici, on les amène dans les hôpitaux ici. Mais ça, c'est un problème. Parce qu'avant, quand on les amène à l'hôpital, les gens refusaient de les soigner, de les toucher. Il fallait que je paye pour que les docteurs les touchent, pour que les soigneurs les touchent. Mm-hmm. On a trouvé maintenant, à l'Institut Marchou, un ami qui s'appelle Kanté, qui traite avec nous, qui est d'accord avec nous et qui a pitié comme nous. Et quand on amène, c'est lui qui s'en occupe. Donc j'ai trouvé aussi d'ailleurs pour vous dire qu'on est en train de faire de telle manière qu'il y ait une clinique spécialisée pour l'albinisme. Au niveau national, des plaintes, on les a contre certaines personnes qui ont perpétré le sacrifice. Mais ça n'avance pas. Ça ne peut pas avancer.
Pourquoi selon vous ?
Parce que c'est des dossiers sur des personnalités. C'est oublié. Et comme ils savent que certains albinos, je ne dis pas le nom de quelqu'un, sont avec eux, ils les aident à étouffer ces problèmes-là. Et moi, pour moi, j'ai une autre philosophie dans la vie. Je suis incorruptible. On ne peut pas. Je n'ai pas besoin d'argent. Quand je suis né, je ne suis pas venu avec de l'argent. Quand je pars, je n'en mènerai pas. Je n'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, c'est servir les autres. Faire du plaisir et venir au secours des autres. Mais nous sommes vraiment contents de la décision et de ce que les Nations Unies... Parce que les 13... C'est très important pour nous, le 13. Parce que dans tout le monde entier, c'est fêté et les gens sont au courant. Ça, c'est très important comme impact.
Salif Keita, si on devait vous donner un autre coup de main pour faire avancer la cause, ce serait quoi ?
Ce serait m'aider à faire cette clinique et mettre à notre disposition un juriste qui peut nous aider à faire avancer le dossier, un politique, un avocat qui sera là pour notre cause. S'il y a des injustices perpétrées sur les albinos, on a besoin de ça.
Votre appel, il dépasse le cadre du Mali. Vous avez lancé un appel récemment pour qu'on combatte le phénomène qui menace de mort beaucoup de gens en Afrique, en fait. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur le phénomène qui est africain qu'on ne retrouve pas seulement au Mali ?
La Tanzanie, c'est plus grave qu'au Mali. La Tanzanie, par an, on ne peut pas citer le nombre de sacrifices perpétrés sur les albinos. Là-bas même, qu'est-ce qui se passe ? Ils les découpent, ils vendent les parties par pièces détachées, les albinos, comme des animaux. Burundi, pareil. Il n'y a pas que le Mali. Et je vous dis, dans tout le monde africain, c'est comme ça que ça se passe. Vu ou pas connu, connu ou pas connu, ça se passe comme ça. Ils sacrifient les albinos.
Est-ce que le fait que Salif Keita, qui est un artiste connu mondialement, grand artiste en fait, est au devant de la scène et qui est albinos, est-ce que ça ne change pas les perceptions ? On se dit, si Salif Keita, qui est un être tout à fait normal, au contraire, qui est un génie, il n'y est pas taxé de sorcellerie ou quoi que ce soit, toutes ces pesanteurs-là, est-ce que ça n'aide pas à faire avancer les choses ?
Personne n'essaiera peut-être d'attraper Salif pour le sacrifier. Mais les autres, la culture, pour lutter contre la culture, vous savez très bien, vous êtes un homme intellectuel, vous savez bien qu'on ne peut pas résoudre ce problème dans un temps record. La culture, c'est dans le sang. Les marabouts, les féticheurs, ils vivent de ça. Et ces féticheurs et ces marabouts, c'est une autre industrie à part. C'est pas facile.
On va juste souffler quelques minutes en musique, avec évidemment la musique de Salif Keita. On va écouter une chanson qui s'appelle « La différence ». Vous allez nous expliquer pourquoi.
Bon, j'ai dit que la différence, je suis noir, mais d'une peau blanche. Je suis blanc, mais avec le sang noir. Je dis que c'est pareil, parce que nous sommes là pour nous compléter. C'est à cause de Dieu que nous avons ces différences de peau et ces différences de façon de vivre entre nous. C'est fait uniquement pour la beauté de la vie. C'est pas fait pour autre chose.
Je suis un noir. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie.
Salif Keïta qui célèbre la différence, qui dit sa différence à l'occasion de cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Salif Keïta, est-ce qu'il y a d'autres organisations de sensibilisation à travers le continent? Est-ce que vous échangez?
Pas tellement, ça passe encore. Mais je crois que ça ne va pas tarder parce qu'il faut absolument qu'on coordonne les mouvements. Donc on va le faire.
Il n'y en a pas du tout, il y en a très très peu.
Il y en a très très peu, mais on est au courant des fondations les plus importantes au Canada, aux États-Unis.
Salif, selon vous, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éradiquer ce phénomène contre les albinos?
Je crois que sur le plan social, d'abord, il faut les aider à avoir une façon de soins autonomes. Parce que ce qu'ils contractent, ce n'est pas des simples plaies, c'est des cancers. Vraiment, il faut les aider à se soigner d'abord. Et vraiment, ça, c'est le plus urgent. De l'autre côté, l'insertion sociale, c'est pas possible d'activer ça. C'est une question d'osculantisme, d'ignorance. Donc, ça ne peut pas se régler en un seul coup. Il faut commencer à dire aux gens, quand même, que ce qui rend la vie difficile socialement aux albinos, ils se basent sur des trucs qui sont faux. C'est pas vrai. C'est pas en tuant son prochain qu'on peut être président. C'est pas vrai. Ça, on peut pas le faire d'un seul jour. Ça va prendre du temps, mais il faut commencer à éduquer les marabouts et les féticheurs, à les éduquer, à en prendre même. Et si on sait qu'il y a des marabouts qui font ça, c'est les ramasser, les foutre en prison.
Vous souhaitez qu'on passe à une phase répressive?
Oui, oui, absolument. Parce que quand on va voir ça une ou deux fois, trois fois, quatre fois, ou dans le monde une dizaine de fois, je crois que ça va beaucoup nous arranger. Mmh.
Qu'en est-il de l'insertion professionnelle des albinos? On sait qu'ils ont une condition qui n'est pas toujours facile. Mmh. Est-ce qu'il y a des aménagements qu'on peut faire pour s'assurer qu'ils s'insèrent
d'abord,
bien?
D'abord, pour les élèves, on contacte les directeurs d'école pour qu'ils viennent sur les bancs devant le tableau, parce qu'ils ont souvent les problèmes, d'ailleurs tous, hein, les 99%, ils ont les problèmes de vue. Qu'est-ce qu'on dit au directeur d'école? De les mettre sur les premiers bancs, les premières tables, quoi. C'est vrai que, quel que soit le niveau intellectuel d'un albinos, tu n'es pas vu comme une personne normale. Même dans les services, c'est pas facile, quoi. On a intervenu plusieurs fois, mais c'est pas facile, c'est vrai.
Est-ce que c'est un combat que le gouvernement malien prend également à bras le corps?
Non, pas du tout. Il faut que je dise, le ministre de la Solidarité, qui est M. Konaté, vraiment, il a commencé à nous faire face. Et ça fait un ou deux ans qu'il fait ça. Vraiment, il est là quand on a besoin de lui souvent.
Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est les pesanteurs socio-culturelles qui font qu'on a peur de s'engager, ou c'est quoi le problème?
Le problème, c'est que c'est pas avec la politique que ces problèmes peuvent se régler. Jamais. D'abord, pour le régler, il faut être apolitique, parce que la politique a sa façon de voir les choses et a sa façon d'exploiter les choses. C'est vrai que moi, je suis pas. On ne peut pas me gérer politiquement. J'aime la liberté.
Vous avez des propositions très, très concrètes. Hein. Mm-hmm. On parle, par exemple, à l'école, mm-hmm. que les élèves s'asseyent devant,
ouais.
parce qu'ils ont un problème de vision.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est le cas en ce moment à l'école? Et ça, c'est plus ou moins facile à établir? Est-ce
non,
que c'est
sincèrement,
le cas?
On a été bien entendu par des directeurs. Il faut le dire. Quand on vient pour ça, sincèrement, ils font ce qu'on a envie que ça soit. Mm-hmm. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réticence. In a world deep on the lumber,
sango in a new sango. Avant de partir, Salif, l'année prochaine, ça sera un an encore pour cette sensibilisation. Quel accomplissement voudrais-tu qu'on ait fait pendant la prochaine année?
La prochaine année, je crois qu'on aura beaucoup plus de relations ou de collaborations avec d'autres organisations pour les albinos dans le monde. Et puis, je crois qu'on sera vraiment secouru par des gens pour construire notre clinique. Je suis un moi. Ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie.
Et c'est avec Salif Keïta que nous refermons cette édition d'Escale consacrée à la sensibilisation à l'albinisme. Nous remercions tout particulièrement nos collègues à Mikado FM, Karim Djinko et Moussa Diarra. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Escale.